C'est répandue, surtout en Angleterre et surtout depuis la réforme protestante, l'idée s'est répandue que le christianisme professait la justification de l'homme par la foi sans les actes, ou comme on dit encore mieux, sans les œuvres, selon une certaine traduction qui s'est répandue partout, alors qu'en réalité il s'agit tout simplement des actes. Le christianisme serait donc un amoralisme ou serait une anomie. Il ne se référerait pas à une logique des actes. Il aurait rompu par rapport à tout ce que je disais en commençant, en disant que ce qui faisait l'originalité propre de l'événement abrahamique, c'était d'avoir posé un acte et d'avoir compris que tous nos actes doivent être désormais sous le signe du tzedek, de la justice, sous le signe du regard de Dieu. Que cette idée ait pu se répandre, cela fait tout notre problème, je dirais, à l'intérieur du christianisme, et nous n'allons pas nous y étendre aujourd'hui. Mais ce que je veux seulement signaler, c'est que ce n'est pas cela que dit Paul. Paul reprend dans ce chapitre, à coup sûr, une distinction pharisienne, qui procédait elle-même d'une réflexion sur les actes, qu'il tient sans doute de son maître Rabbi Gamaliel, dans la ligne d'Hillel, et selon laquelle, pour les pharisiens, la morale, qui est la morale des actes, j'entends morale au sens fort, évidemment, j'entends pas ici la morale comme opinion collective en matière de morale, on parle de l'exigence morale, de l'impératif moral. La morale est bien la morale des actes, c'est-à-dire que l'homme mérite par ses actes et est jugé sur ses actes, mais l'acte humain ne saurait être réduit à la matérialité de l'acte, telle qu'elle peut apparaître dans un procès-verbal de police ou dans un témoignage qui ne s'élèverait pas jusqu'à la conscience de ce que doit être un témoignage sur un acte humain. L'acte humain véritable, c'est l'acte avec sa pensée interne, avec sa logique interne qui fait qu'il est un acte humain et qui fait l'acte. Ceci introduit donc une considération du sens des actes. Ce qui compte, c'est donc l'acte, mais l'acte en tant que lieu et manifestation de l'émouna, puisque, à partir d'Abraham, tous les actes sont marqués par l'émouna qui a donné le sens des actes. Et Paul étendra cette réflexion aux païens eux-mêmes qu'il appelle à la foi. Je lis ici le passage clé de Paul, en le lisant lentement. Nous estimons que l'homme, il s'agit ici de l'homme juif, quand il accomplit un acte, est justifié par la foi, impliqué dans l'acte qu'il accomplit, et non pas par le fait comme tel qu'il accomplit cet acte. Romains 3, 28. Eh bien, voilà le verset central sur lequel se base ce problème de la foi et des actes. Personnellement, il me semble que c'est la doctrine des pharisiens, si l'on a rappelé que l'acte moral pour les pharisiens, pour Hillel en tout cas, sinon pour Shammai, et aussi pour Shammai, c'est-à-dire que Shammai insistera un peu plus sur l'acte comme tel, et Hillel sur la marashava, sur la pensée qui est intérieure à l'acte, incluant la considération du sens, ou comme on dira plus tard, de l'intention. Et voilà pourquoi Paul peut conclure en disant « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui seront justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Et par là, il montre bien l'importance de l'acte. Et ce qui étonne, et alors c'est là que la position chrétienne se distingue de la position juive, c'est que cette logique de l'acte, ce sens de l'acte moral qu'il a reconnu grâce à l'enseignement pharisien et grâce à l'héritage biblique, il peut en voir l'application aux païens eux-mêmes qui n'ont pas connu la loi. Et voici ce qu'il dit. Quand les païens, les goïmes, qui n'ont pas la loi, car ils ne l'ont pas, quand les païens qui n'ont pas la loi font par eux-mêmes ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Et ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, c'est alors leur conscience qui leur rend témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ce qui est nouveau dans l'œuvre de Paul, c'est que ce qu'il a appris des pharisiens, il croit pouvoir l'appliquer dans le domaine de l'univers tout entier à ceux qui n'ont pas la connaissance de la loi et pour qui la conscience tient lieu de loi. Ça, c'est une discussion que nous ouvrirons, mais dire que Paul a professé la doctrine de la justification par la foi sans les actes et sans les actes de la loi, c'est certainement faire un contresens sur la pensée de Paul. Voilà, je voudrais simplement terminer en une minute par une évocation importante de l'héritage abrahamique dans la pensée chrétienne. C'est celui qui concerne l'enseignement de Jésus dans les évangiles sur la résurrection. Vous savez qu'on vient l'interroger et on lui pose le fameux cas qu'on pose dans tous ces cas-là. Une femme a eu 7 maris successivement, le jour de la résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse ? Problème évidemment épineux, comme tous les problèmes un peu stupides que l'on peut passer dans ce sens. Et Jésus répond, si vous posez cette question, c'est que vous n'avez pas compris le sens des Écritures et la puissance de Dieu, qui seul peut vous éclairer quand il est dit « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu des vivants. » Vous n'avez pas compris le sens des Écritures, cela signifie vous n'avez pas compris que ce n'est pas autrement que par la connaissance de toutes les Écritures, c'est-à-dire par la tradition orale, que vous pourrez répondre en vous-même à une question comme celle de la résurrection des morts. Et vous n'avez pas compris qu'il y faut la puissance de Dieu, c'est-à-dire la Gevura. La Gevura, qui est le nom même de la deuxième bracha de Shmoneh Esrei, qui avait justement été établie par les pharisiens, la bracha d'Itsrak, sur le dieu Mechaye Hametim, qui avait été établie comme signifiant que si l'on n'a pas la force, si je n'ai pas la force qui m'est donnée pour interpréter les Écritures, alors en effet je ne peux pas m'élever jusqu'à une question comme celle de la résurrection des morts. Mais si Dieu me donne la force, alors ce qui ne m'est pas normalement possible, je pourrais l'affirmer, et je pourrais comprendre que la formule « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », cela voulait dire que déjà pour Abraham, Isaac et Jacob, il y avait la résurrection des morts. Je n'entre pas dans tous ces détails qui demanderaient peut-être une conférence entière, mais simplement pour témoigner que pour le christianisme, nier ce qui a été donné en Abraham, Isaac et Jacob, c'est tout simplement décréter la fin du christianisme. Et que par conséquent, le christianisme est lié fondamentalement et radicalement à l'existence de la foi de l'homme. Écoutez, je dois d'abord vous remercier, indépendamment pour les contenus que vous nous avez transmis, par le fait que vous m'avez rendu la tâche extrêmement facile. Et votre exposé a eu 3 parties, grosso modo. Pour les 2 premières parties, je n'ai pas à y revenir, sinon peut-être sur un ou 2 petits points de détail, semaine d'ailleurs inutile à signaler. Et la position des pères de l'Église vis-à-vis de ce qu'était la culture inspirée par la philosophie des stoïciens et donc extrêmement proche de celle des pères de la synagogue, disons. Et la deuxième partie en particulier, votre exposé s'appuyait sur Saint-Augustin, pardon. Mais s'il n'y avait pas eu la troisième partie, j'aurais tenté de dire que c'était un Saint-Augustin lu par le père Dupuis et très ébahissant. Et on se serait demandé pourquoi il y avait une séparation une fois entre la chrétienté et le judaïsme. Mais votre troisième partie a situé le problème. Simplement, pour la deuxième partie, je voulais que vous nous éclairiez tout à l'heure pourquoi vous avez fait une distinction entre les familles de la terre et les nations de la terre au sujet de la bénédiction en Abraham, bénévole de Roberta, puisqu'il y a aussi une référence qui dit explicitement Goya dans la Genèse. Si c'est important, vous y reviendrez tout à l'heure. Alors j'en arrive directement, parce que nous avons peu de temps, au 3 derniers points, qui était votre troisième partie, la référence que vous avez faite à la révélation à Moïse au buisson ardent,
surtout la deuxième référence concernant Jacob et Ésaü, peut-être qu'il faudrait reprendre ce dialogue plusieurs fois, et en fin de compte sur la relation entre la foi et les actes à travers Saint Paul et par rapport au pharisaïsme, que ce soit derrière l'école d'Hillel et l'école de Shammai. L'école d'Hillel et l'école de Shammai posent un problème de différence, mais dans le fond de ce problème, la relation entre la Maharshala et le Maasé, entre l'intention et l'acte, c'est la même position. Donc je crois que ce soit tellement nécessaire de s'y appesantir, mais si c'est nécessaire, nous pouvons le faire. Je reviens d'abord à la très pertinente manière avec laquelle vous avez cité la révélation à Moïse au buisson ardent, pour bien situer votre interpellation, que la contestation de l'élection d'Israël ne porte pas sur l'élection elle-même, pour la lecture chrétienne à partir d'Abraham, mais sur ses modalités, disons, je n'ai pas retenu le mot exact que vous avez employé, sur son exclusivité, vous avez apporté. Oui. Et là, et vous avez donc cité un midrash qui indique que, effectivement, le texte porte, dans la référence du chapitre 3 de l'Exode, le texte porte sur le fait que Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent en disant « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et qu'il ne fallait pas entendre là une nécessité de filiation parentale, que ce soit la voix du père, et donc que la parole du Créateur du monde, qui s'est révélée dans l'histoire antérieure comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne passait pas forcément par l'identité hébraïque dont se réclame la tradition juive à travers précisément, comme point de départ Abraham l'hébreu, la sélection d'identité qui nous fait passer sa descendance par Isaac, puis Jacob et par Ésaü, ceci étant le deuxième point de tout à l'heure. Le Midrash d'ailleurs, auquel vous vous référez, elle nous dit explicitement que c'est bien la voix de son père que Dieu avait prise pour s'adresser à Moïse. Et vous l'avez expliqué à votre manière, d'ailleurs très pertinente, pas sous forme de séduction, mais sous forme de permanence des chaînes de la révélation. Et que c'était pour faire entendre que c'est le Dieu de son père, et il s'agit d'Abraham, dans votre analyse, que c'est le Dieu de son père qui s'adresse à lui, et non pas son père dans la voix de son père. Ceci était votre lecture, et que j'ai intégré dans notre propre univers spirituel, mais le Midrash a une autre précision en disant ceci, c'est que c'est la première fois que Dieu se révèle à Moïse, alors que 40 ans auparavant, Moïse, par sa propre initiative, avait entrepris la marche historique qui avait pour objet l'accomplissement de la promesse de la fin de l'exil de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en Égypte. Donc, rappeler la situation de l'identité de Moïse 40 ans avant, et ensuite, après sa fuite de l'Égypte et à Midian, au buisson ardent, au moment de la révélation du buisson ardent. Et parfois, on oublie, c'est que Moïse avait pris par lui-même l'initiative de déclencher ce qui aurait pu être 40 ans avant la sortie d'Égypte. Et pendant tout ce temps-là, Dieu ne s'est pas révélé à lui. La première fois où il se révèle à lui en révélation prophétique à proprement parler, c'est au buisson ardent. Il avait donc 80 ans, et d'abord 40 ans de sa première partie de vie en Égypte. C'est là que je voudrais insister sur son identité de la première partie de sa vie, où il était simultanément égyptien et hébreu. C'est-à-dire, un peu comme Abraham, au temps où il s'appelait encore Abraham, était simultanément chaldéen et hébreu ou araméen. C'est-à-dire, il y a donc un véritable dévoilement de révélation d'identité pour confirmation que son initiative était bien authentique à Moïse et son ardent. Et pour que ce choc de la première révélation à Moïse, à l'âge de 80 ans, je le répète, parce qu'il y a trois parties de la vie de Moïse, 40 ans, il était l'héritier du Pharaon, un hébreu clandestin en Égypte, et les deuxièmes 40 ans, il était chez Jéthro, à Midian. Les troisièmes 40 ans, il a été le libérateur d'Israël et celui à travers qui la loi a été prophétisée, en tant que loi. Et donc, dans la première partie de sa vie, Moïse nous apparaît dans une identité absolument mixte. D'un point de vue parental, on pourrait le définir comme un fils adoptif du pharaon, et s'il avait fait l'option égyptienne au lieu de faire l'option hébraïque, eh bien l'avenir de l'histoire aurait passé par l'Égypte et pas par Israël. C'est son choix qui a fait bifurquer toute l'histoire de la révélation. Et donc, c'est bien une filiation hébraïque qui se propose à lui dans la révélation à Cobuisson Ardent, opposée à une filiation possible égyptienne. Et d'une certaine manière, c'est à ce moment-là seulement qu'il se dévoile comme hébreu plus qu'égyptien, alors que jusque-là, il aurait pu se dévoiler comme égyptien plus qu'hébreu. Et le Midrash dit ceci, étant donné que le premier choc de la révélation pourrait être pas seulement séducteur, fascinant, mais comment, traumatisant, alors il fallait que Dieu se parle avec lui avec une voix familière. Mais ce n'est pas par hasard que c'est précisément la voix de son père. Et lorsque Moïse est prêt à écouter sa filiation hébraïque, alors le Dieu des Hébreux se révèle à lui en tant que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce que je dis là, ce n'est pas pour contester purement et simplement votre approche, mais pour restituer une exégèse juive qui est hébraïque dans le principe. Pas seulement au niveau de la langue, mais pas au niveau du sens. Parce que là, vous avez parlé que selon la conception juive de l'élection, cela passe par le sang et la nation, c'est pas du tout la même chose. Et là, je crois que nous aurions une contestation absolue. Il ne s'agit pas de sang dans le sens de la filiation par le sang, c'est-à-dire racial. La simple preuve, c'est que n'importe quel membre des nations peut devenir juif. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'une filiation au niveau du sang, mais bien de la nation, et c'est autre chose. Et là, nous sommes obligés de revenir à l'identification hébraïque du message de Dieu aux hommes, mais à travers l'identité hébraïque. Là, je crois que nous sommes plus centralement dans le sens de notre problème, parce que l'attitude des pères de l'Église que vous avez citée de façon qui nous est très familière par rapport à Abraham, peut être indexée purement et simplement au sous de la tradition juive elle-même. Je ne veux pas dire que vous nous avez facilité l'écoute de ce que vous avez dit à travers votre propre érudition d'hébraïsant, il y a peut-être un peu de cela, mais ça peut s'intégrer de façon très claire. Parce que, quand même, une distance culturelle de 2000 ans peut se récapituler si on se rattache au temps hébreu. De cela, on peut vous donner acte. Seulement, et cette contestation au sujet de l'élection qui fait apparaître une conception de la suite du projet du message d'Abraham qui ne passe plus par Israël en tant qu'il s'agit de la nation hébraïque, même si et à travers le temps, cette nation hébraïque est obligée de se déguiser au niveau d'Abraham en araméen, et au niveau de la diaspora postérieure dans l'identité juive. Mais il n'en reste pas moins que vous avez une raison de mettre l'accent d'une manière un peu différente de nos propres sources sur le fait que c'est parce qu'il était hébreu qu'Abraham était capable de foi, de prophétie, de sagesse et de prévision. Peut-être pour la tradition juive beaucoup plus claire que vous n'avez dit pour votre tradition, de la messianité, et donc d'un terme en tant qu'aboutissement de l'effort de l'histoire humaine, et non pas fin du monde, mais d'aboutissement de l'histoire, et donc de résurrection des personnes, de tous ceux qui, à travers les siècles et les millénaires, depuis le premier homme jusqu'au Messie, auraient participé à l'avancement, au progrès et à l'engendrement de cette histoire. Donc, sur ce premier point, nous avons à réfléchir en commun. Et il n'y a pas de doute que le choix de Moïse a été un choix national. Et d'ailleurs, avec une troisième dimension, qui est celle de Midian, dont je voudrais dire quelques mots très rapidement, en me référant à des analyses que nous avons déjà eues dans des séminaires précédents, mais il est bien clair que si la révélation a continué à travers Moïse, eh bien c'est parce qu'elle ne pouvait pas passer à travers la civilisation égyptienne, mais elle devait passer à travers la civilisation hébraïque, et qu'il y a là une catégorisation que peut-être le terme de nation en français ne recouvre pas totalement, mais qui va dans ce sens-là. Ça ne signifie pas du tout, et c'est ce que vous avez décrit, pour ce que Saint Paul dit des païens, ça ne signifie pas du tout que n'importe quel individu, personne humaine, des Goé à Arrête, des nations du monde, ne puisse être relié à ce salut qui, à travers Israël et Dieu, passe par la loi révélée par Moïse au Sinaï, c'est la notion des chassidim en Olam, qui se conduisent suivant la loi morale et qui entendent la foi d'Abraham, qui pour eux est un objet de foi, alors que pour l'hébreu, elle est un fait d'existence, un acte, comme vous l'avez très bien posé, mais non pas un acte, même au niveau pneumatique, spirituel, elle est un acte d'être, elle n'est pas un comportement de la conscience seulement. Alors que pour les païens convertis, c'est là que je dirais, revenus à l'authenticité de la foi d'Abraham, cela reste un objet de croyance, dans le sens très positif du terme. Mais vocabulaire que la tradition juive évacue. Le juif ne croit pas dans l'objet de sa foi. Il agit l'objet de sa foi. Il est ce en quoi les non-juifs croient lorsqu'ils croient dans le salut qui passe par le juif. Et il y a là une différence d'approche de la messianité qui me semble très importante à élucider. D'une certaine manière, nous pourrions dire, et je reviens après sur le détail de l'analyse, c'est que Israël, en tant que nation hébraïque, et je suis à l'aise pour dire nation hébraïque précisément, parce que vous avez remarqué comment, dans la tradition chrétienne elle-même, la catégorisation d'Abraham comme hébreu est très importante. Même lorsqu'il était encore araméen, Abraham, le texte nous dit que c'était un hébreu camouflé derrière l'araméen. Et le chapitre 14, je ne sais pas que vous avez cité. Et là, il faut bien entendre ça, c'est que la rupture entre la chrétienté, disons, et le judaïsme se centre sur ce que vous avez appelé la contestation des modalités de l'élection d'Israël, et je ne crois pas que de simples nuances d'exégèse ou de conception d'incarnation sociologique de la foi dans telle ou telle société humaine puisse suffire. Là, je pense à l'exégèse de Saint Paul, quelle place donner plus aux actes et aux œuvres qu'à la foi. Ce sont des petites nuances de sociologie religieuse que ça puisse suffire à hausser notre problème au niveau de cette grande séparation qui a eu lieu il y a 2000 ans entre la chrétienté et le judaïsme. Vous avez eu raison de dire qu'il y a là une contestation sur une modalité de l'élection. Ça va au-delà. Et c'est peut-être à ce niveau qu'il faut le prendre. Alors, je dirais, pour essayer un peu d'exprimer très schématiquement, mais c'est obligatoire d'être schématique dans si peu de temps, un peu la différence que je ressens en tant que juif de notre différence au sujet de la messianité, je dirais à la limite, c'est que, en fin de compte, les membres des nations appelés au salut, entendu, la bonne nouvelle entendue chez les Hébreux, croient, et ils y croient de bonne foi, et j'essaierai d'expliquer tout à l'heure sur mon troisième point de Vachalealo de Sidaka, en quoi c'est légitime, ils sont censés croire en ce en quoi Israël est censé être. C'est-à-dire que, alors que la messianité des fils des nations appelés à la foi d'Israël qui commence à Abraham, à être révélée par Abraham, parce qu'elle est beaucoup plus ancienne quand même, comme vous l'avez signalé, elle se prépare à travers la lignée de Shem et de Hever, eh bien, ils sont censés croire en ce en quoi Israël est censé être. Je ne sais pas si les termes que j'emploie sont suffisants. C'est-à-dire qu'il y a là effectivement une expérience du salut par la croyance et la sincérité de la foi qui transforme l'homme d'Égoïne. Il n'est plus païen, il est homme se rattachant à la foi d'Israël. Nous l'appelons Hassid Deomotarlam dans la mesure où il pratique la moralité, c'est bien clair. Alors qu'Israël est censé être cette messianité. Pour l'identité juive, en tant qu'elle est hébraïque, c'est un phénomène d'existence. Alors que pour les enfants des nations, c'est un phénomène de croyance. Et je ne veux pas du tout mettre un sens péjoratif au terme de croyance, ni minimisant ce qu'il y aurait si on invitait aux juifs. Si on disait à un rabbin que la croyance juive et que le juif est censé faire son salut en croyant au salut, il comprendrait pas. Mais si on dit à un prêtre chrétien qu'un chrétien est censé faire son salut en croyant au salut, en effectuant cette croyance, cela il comprend. Et pour indiquer tout simplement que même si nous faisons allusion à des comportements spirituels analogues, au fond nous sommes aussi différents et analogues que la main droite et la main gauche. Ce sont deux mains, mais on n'arrivera jamais à les faire coïncider. Mais sur ce critère-là, je vois que votre exemple d'Abraham est très bien choisi. Il y a une différence, me semble-t-il, irréductible. D'un côté, il y a un comportement dans l'existence, De l'autre côté, il y a un comportement dans la foi, un comportement dans la croyance. Et alors, voici l'essentiel, si vous voulez, pour le choix de Moïse. Il a été un choix national, mais entendez dans ce terme de nation, la nation hébraïque, pas n'importe quelle autre nation, et que ce n'est pas une race dans le sens du sang. Il y avait, je vous avais dit, une troisième dimension dans la perplexité de Moïse. C'était la dimension minyane. Je rappelle, minyane, je dis, c'est minyane. Je rappelle simplement le dénouement historique.
Midian.
Non, Midian. Je me suis trompé, j'ai dit Midian. Si je commençais à la semaine, c'était mignon. Et alors, la Tzipora était mignon. Et alors, voilà le développement historique. Et lorsque Moïse voit l'état des relations entre la civilisation égyptienne et l'hébreu en exil en Égypte, et qu'il voit l'oppression de l'hébreu par l'égyptien, alors il choisit ses frères chez les Hébreux et non plus chez les Égyptiens. Le verset est très clair. Il a, et son choix est dicté par la moralité. Au niveau culturel, au niveau des civilisations, d'un point de vue de Cyrus, si vous voulez, en ce temps-là, eh bien, l'Hébreu de l'Égypte ou l'Égyptien de l'Égypte, c'était très analogue en tant qu'être de nature. Mais il y a une différence beaucoup plus profonde. Et Moïse aurait pu être ouvert ou autre, puisqu'il a été les deux en même temps pendant 40 ans. Il y a une différence très profonde qui nous fait pressentir que c'est Moïse qui sera le médiateur de la loi, le prophète médiateur de la loi morale. Ce sont des critères d'ordre moraux, hébraïques, qui le fait choisir pour l'identité hébraïque et non pas l'identité égyptienne. Le lendemain, nous raconte le texte de l'Exode, il assiste à une deuxième scène. Ce n'est plus un Égyptien qui frappe l'Hébreu, c'est deux Hébreux qui se querellent. Alors il est déçu de l'état de la société hébraïque exilée en Égypte et il s'enfuit. Il s'enfuit sachant que le pharaon avait déjà entendu cela, que Moïse, l'héritier du trône, avait opté pour l'Hébreu, pour l'histoire du monde à travers les Hébreux et non pas l'histoire du monde à travers les Égyptiens. Et il s'agit des Égyptiens de cette grande civilisation pharaonique. Il s'enfuit à Midian. Et le texte très raccourci, très dense, très rapide, nous montre qu'il sait où il va. Il ne va pas n'importe où. Il va dans une société où il y avait d'autres descendants d'Abraham qui n'étaient pas Israël, puisque Midian est un des fils d'Abraham par Tzurah. Et là, le miracle m'explique, en s'appuyant sur le texte, d'ailleurs, il y arrive près du puits, et puis il voit une bergère venir faire perdre ses troupes. Or, on dit que cette bergère était la fille du grand prêtre de l'endroit. Et le Midrash explique comment se fait-il que le grand prêtre de l'endroit n'a pas des bergers et doit envoyer sa fille comme bergère. C'est, nous dit-il, et on remonte à Abraham, parce qu'il avait fait la même révolution de destruction des idoles que son ancêtre Abraham avait fait. Effectivement, il avait essayé toutes les idolâtries, il avait coupé tout et il était disponible à une vérité possible. Midian, descendant d'Abraham, c'est Jéthro, prêtre de Midian, est un autre Abraham possible et qui n'est pas hébreu. Je pense que je suis clair. Et là, il y a une tentation de Moïse. Moïse est tenté de fonder un peuple de descendance d'Abraham à partir de Midian pour remplacer les Hébreux qui, selon lui, avaient été disqualifiés en Égypte. C'était la scène de la querelle d'Adam et d'Abraham. Et Dieu attend jusqu'à ce que Moïse se rende compte que son identité est hébraïque et non pas midianite ou égyptienne. Lorsqu'il nomme son fils Gershom, qui guère est Haïti Véret Mochria, lorsqu'il reprend conscience de son identité de Métek, même à Midian, qui est de juif en langage contemporain, car je suis étranger dans une terre étrangère, et le fait que la Bible est très claire et sans aucune ambiguïté, alors Dieu se révèle à lui et lui dit maintenant que tu as compris que tu es un hébreu, alors retourne en Égypte, c'est bien les Hébreux qu'il faut délivrer et non pas un Midian quelconque. Je crois que cette dimension de la perplexité de Moïse contribue un peu à l'éclairage de notre sujet. Et ça ne veut pas dire que seul l'hébreu peut être sauvé, puisqu'il y a encore une fois les chassidés vont à Abraham. Alors il me semble que tout en nous référant à la même démarche initiée par Abraham, on arrive il y a 2000 ans à cette rupture, précisément sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire la contestation des modalités de l'élection. Il nous semble, et vous nous donnerez votre point de vue sur ce point, ça me semble important, que le christianisme naissant et pendant des siècles. Maintenant, nous sommes 2000 ans après, et après des événements énormes, comme la Shoah, l'État d'Israël, etc. Et par conséquent, notre dialogue se reformule sur de tout autre registre, c'est évident. Mais malgré tout, l'identité historique est ce qu'elle est avec sa propre mémoire, tant du côté chrétien que du côté juif. Alors, il nous semble que la fondation de la chrétienté n'a pas seulement interpellé, mis en question l'exclusivité de l'élection d'Israël, mais l'a un peu plus mis entre parenthèses. Et en ce sens que l'espérance de la nouvelle Église aurait été bien évidemment que tout juif se convertisse à la foi chrétienne, laquelle impliquait une dimension nouvelle d'universalité à la manière chrétienne et non plus celle de la brique de bien noir des chassidés au Mont-Arabat. Et par conséquent, dans ce projet, il y avait bien dans le principe la mise entre parenthèses de l'identité nationale d'Israël, non pas simplement parce que c'est un État parmi les autres ou un État pour juifs, mais parce que c'est la nation hébraïque, ce véhicule qui a été le véhicule de la révélation. Là, il y a un point précis sur lequel je voulais aussi vous demander votre avis. Je ne crois pas que l'Église chrétienne orthodoxe, je ne pense pas à l'orthodoxie russe, mais même catholique, l'orthodoxie catholique, admet qu'après les derniers prophètes hébreux, il y a eu d'autres prophètes. Il y a 400 ans d'interruption entre les derniers prophètes hébreux, je dis bien, les Judéens étant les derniers des Hébreux, mais il s'agit donc du canon du Tanakh, enfin de l'Ancien Testament, selon vous, Malachi, Zacharie, et les premiers apôtres. Et je ne crois pas, d'après ce que j'ai pu étudier de ces questions, que l'orthodoxie chrétienne considère les apôtres comme des prophètes. Par conséquent, il me semble que l'Église elle-même reconnaît ce que vous avez signalé, que la capacité prophétique, comme dirait Judas Lévi, se relie à l'identité hébraïque. Les apôtres, c'est les apôtres, c'est autre chose. Je ne parle pas de la fonction du Christ à proprement parler à ce niveau-là. Et là, je crois qu'il y a un débat sur lequel il faut réfléchir. Alors, si vous me permettez, il y a encore beaucoup à dire, mais il faut laisser le temps de dialoguer avec la salle aussi, j'arrive brièvement au deuxième point, peut-être le troisième, on pourra laisser ce côté provisoire, la foi et le. Le deuxième point, c'est Jacob et Lévi. En vous entendant dans les premières phrases, je me préparais à vous poser la question suivante, y a-t-il une source chrétienne de la filiation de la chrétienté à travers les Élus? Vous m'avez tout de suite répondu non, ce sont uniquement des sources juives. Mais je voudrais préciser que ce n'est pas une certaine typologie, c'est l'ensemble de la tradition du Midrash et du Talmud et de la Kabbalah qui définissent l'identité chrétienne dans la filiation des Élus, mais je veux le préciser pour au moins 10 minutes. Donc, il y a deux moments de Rome là, dans l'histoire. Le premier moment, où déjà la tradition juive identifie Édom, Ésaü et Rome, c'est le temps de la Rome païenne, sans aucune ambiguïté. Et à ce niveau-là, on ne parle pas du tout de l'Église qui n'existait pas encore, ni de l'identité chrétienne qui n'existait pas encore. Cette typologie est très précise dans les sources juives. Ce n'est pas du tout une image, c'est le fait que, et du point de vue de la manière d'être Rome telle qu'elle s'exprime dans une civilisation concrète, et d'autre part, un point de vue historique sur lequel je reviendrai pour la deuxième partie de Rome, c'est la civilisation romaine qui a incarné dans l'histoire le potentiel d'identité humaine de la manière d'être homme, Ésaü. Fils d'Isaac, fils d'Abraham, mais cependant Ésaü qui n'est pas Jacob. En ce sens que très rapidement, nous sommes avertis par le texte que Jacob est voué aux vocations spirituelles et donc il reçoit la bénédiction d'Abraham, qui n'est pas celle qui était destiné à Ésaü. Il y avait deux bénédictions dans le texte, dans tous les chapitres de la paracha de Toldot. La bénédiction d'Abraham qui n'est donnée qu'à qui n'épouse pas de femme de Canaan. Ça veut dire qu'à qui préserve l'identité hébraïque, alors qu'Ésaü est disqualifié parce qu'il prend des femmes de Canaan. Et que son avenir ne passe plus par l'identité hébraïque et la capacité prophétique. Et c'est donc pourquoi la bénédiction d'Abraham, d'emblée, sans problème de substitution d'une autre bénédiction qui va être substituée, est donnée à Jacob. Les textes sont très clairs. Jamais Isaac n'a pensé à donner la bénédiction d'Abraham à Ésaü, parce qu'il ne la donne qu'à qui n'épouse pas des femmes de Canaan. Et ça s'est rattaché à un problème de la gestation d'identité d'Israël de la matrice hébraïque. Et tout ce qui s'en écarte, que ce soit par la garde égyptienne ou par les femmes d'Ésaü, sorte de l'identité hébraïque. Ensuite, quand l'identité hébraïque est constituée, n'importe quel individu des nations peut l'intégrer, peut la rejoindre. Nous étudions ce problème dans le texte du matin, je le rappelle pour mémoire, mais là, le texte est très clair. Pour que l'identité d'Israël, contractant de l'alliance avec le Créateur, puisse devenir historique, il faut qu'elle soit hébraïque. Et là, il n'y a aucune ambiguïté. D'autre part, Ésaü a opté pour la vocation matérielle. Ces deux vocations sont légitimes. Mais lorsque la vocation matérielle est coupée de la moralité, elle devient, bon, l'immoralité bien sûr, mais elle devient finalement ce que les grandes civilisations, et en ce cas-là, émergent, au temps de notre rupture, il y a 2000 ans, émerge la civilisation de Rome, des Dômes, qui est la civilisation temporelle du temps, et en substituer la légalité à la moralité. Et c'est ce qu'on appelle le droit romain. Et c'est pourquoi, et c'était une civilisation absolument immorale, quelles que soient ses qualités culturelles, ce qui n'était pas en question chez les rabbins de ce temps eux-mêmes. Et c'est pourquoi, en ce temps-là, la conscience juive rescapée de toutes les destructions de la nation hébraïque jusque-là, et nous situons avec Jésus, diagnostique chez Rome la tentation Ésaü, ou si vous voulez, l'option d'identité Ésaü. Or, l'histoire d'Ésaü n'est pas simple. Et vous l'avez signalé d'ailleurs. Isaac a toujours voulu donner la bénédiction matérielle à Ésaü, en étant persuadé qu'Ésaü serait frère de son frère, et que Jacob serait frère de son frère et qu'il partagerait. J'hésite pour le lire si rapidement, parce qu'il faudrait parler beaucoup plus, puisque je parle d'un texte que je ne cite même pas, donc il est là devant les yeux. Mais je voudrais être assez rapide. Isaac a une certaine complaisance pour Ésaü, pour des raisons propres à l'identité d'Isaac, différentes d'Abraham. Mais Isaac est un juste, alors que Ésaü ne l'est pas. Mais Ésaü arrive à tromper son père parce qu'il l'aimait tellement qu'il savait comment le tromper. Le Midrash le dit très clairement, Ésaü aimait beaucoup son père. Il n'aimait pas sa mère, mais il aimait beaucoup son père à un point tel qu'il savait le tromper. Et donner un exemple. C'était un chasseur. Alors, un peu détendre l'atmosphère, un exemple de cachot. C'était un chasseur, et il apportait les produits de la chasse à Isaac, son père. Or, Isaac mangeait la chair. Et comment la Bible nous dit qu'Ésaü apportait les produits de la chasse à son père Isaac. Alors, le Midrash intervient avec beaucoup d'humour parisien, et dit ceci: il avait bien appris les lois de la cachot, et il savait comment aiguiller ses flèches, de telle sorte que même de loin, il pouvait faire la chute à la cachette pour les oiseaux qui passaient au-delà. Et quand son père lui demandait ses cachettes, il lui disait à quel point, regarde mes flèches, on avait la vie claire. Okay. Ou bien, il avait déjà appris les lois de la dîme, on donne la dîme au Cohen. Et alors, il demandait, et pour le sel, combien il faut donner de dîme? Et le père se disait, il est tellement pur, même pour le sel, il faut donner la dîme, le sel n'en donne pas la dîme, mais Ésaü donnait. Il se moquait de lui. Enfin, l'égalité à la place de la morale. C'était un juriste extraordinaire, le droit romain. Et je parle de la Rome païenne. Et nous avons tous fait des études d'humanité, c'est pour du langage même en français, et nous savons à quel point cette Rome païenne avait des dimensions de valeur culturelle, mémoriale, française, colossale. C'est la grande civilisation qui a donné naissance à toutes les sociétés du droit romain contemporain. Mais, je reviens à Ésaü, Rebecca intervient. Elle sait que Ésaü n'aimera pas Jacob et que Jacob n'aimera pas Ésaü. Tant qu'ils sont aussi différents l'un de l'autre, un, la vocation matérielle devenue immorale, et l'autre, la vocation spirituelle. Et alors, elle intervient pour obliger Jacob à recevoir aussi la bénédiction matérielle qui était prévue pour Ésaü. Petite parenthèse nécessaire, nous apprenons dans la suite du texte que Jacob refuse finalement cette bénédiction qu'il a reçue et ne l'a jamais utilisée. Cela en oublie tout. Lorsqu'il fait un vœu, en disant, au moment de sa fuite, en disant, si tu me donnes du pain pour manger et un vêtement pour me vêtir. Et alors tout ça dans mon Dieu, je serai ton serviteur. Le Midrash demande, pourquoi cette répétition, du pain pour manger, un vêtement pour te vêtir, du pain, un vêtement. Dis non, je ne veux pas du pain et avoir à le vendre pour acheter un vêtement. Je ne veux pas un vêtement et avoir à le vendre pour acheter du pain. Je veux du pain pour manger, un vêtement pour me vêtir. Et ça veut dire que Jacob, l'ancêtre des Juifs, avait refusé le commerce. Il demande simplement le pain et le vêtement, il refuse la bénédiction des amis qu'il juge dangereuse pour lui. Ça, on l'oublie souvent. Et quand il revient de son exil, il s'en excuse avec les amis en lui disant ce que j'ai reçu de mon travail, c'est de mon travail, ni du ciel ni de la terre. Ton père m'avait béni avec le ciel et la terre, mais cette bénédiction, je l'ai. Elle reste à Isaac, qui en dispose. Mais Jacob la veut. Ceci pour mettre. Et une petite parenthèse de mise au point. Je reviens au déroulement du récit. Je reviens au déroulement du récit pour dire ceci. C'est que dans la pensée d'Isaac, au moment de la bénédiction, c'était un Jacob qui avait les mains des Aïus, puisque Rebecca l'avait déguisé avec des pots de chevaux. Vous vous rappelez ça? Ça devait être la fabrique de gantries juives, il y en a beaucoup. Et puis, alors que dans la réalité, c'était un. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompé. Dans la pensée d'Isaac, c'était un Ésaü qui parlait comme Jacob. Puisqu'il croyait que c'était Ésaü, il entend la voix de Jacob. Akov, Kola, Akov, Aïbaïm et Esa. Alors que dans la réalité, c'était l'inverse. C'était un Jacob qui avait les mains d'Ésaü. Et alors, c'est là que j'en viens au verset que vous avez cité. Lorsqu'il s'aperçoit de cela, il est pris de Vayaherav, Harada, Gedola. Isaac est pris de terreur. Pourquoi? Parce que deux personnages faux apparaissent dans cette scène. Indépendamment d'un Jacob qui serait Jacob et d'un Ésaü qui serait un Ésaü, deux personnages faux apparaissent. Un personnage qui serait Jacob avec la voix de Jacob, mais les mains d'Ésaü. Et un personnage qui serait Ésaü avec les mains d'Ésaü, mais la voix de Jacob. Et c'est à partir de là que typologiquement, la tradition juive va attribuer à l'Église chrétienne romaine l'identification de ce deuxième Ésaü. Celui qui a les mains des amis, mais la voix de Jacob. Je pense que ça va être suffisamment clair, bien que succinct. C'est-à-dire, si nous nous interrogeons sur le fait de savoir qui, typologiquement, vous savez que le maniement de la typologie est très délicat. Il ne faut jamais généraliser, mais il y a là la désignation d'un type d'identité humaine. Qui, typologiquement, a incarné l'histoire des amis dans l'histoire, nous sommes bien obligés de nous poser la question de la manière suivante. Qui, n'étant pas Jacob, se prétend être Jacob et Israël, et qui est ce personnage dans l'histoire biblique? La réponse est Ésaü, elle est très claire. Et d'autre part, c'est corroboré par l'histoire, puisque la société chrétienne, intentionnellement je dis la société chrétienne et pas le christianisme ou la chrétienté, est apparue dans une circonstance historique très précise. Une alliance de Rome et des Dômes contre la Juive. Une alliance des Romains et des Iduméens, c'est-à-dire la peuplade des Aïus, contre la Juive. Et c'est à l'époque des Romains. Et c'est effectivement dans ce contexte qu'a été formulée cette typologie que vous avez citée en la contestant, que notre différent sur cette interprétation des élections entre ceux qui ne sont pas d'identité hébraïque, mais qui se réclament du nom d'Israël, et d'autre part, ceux qui restent fidèles à l'identité hébraïque d'Israël, même lorsqu'elle est en clandestinité dans l'identité d'exil, et c'est l'identité juive et corps de l'identité hébraïque, si j'ose dire, mais ça précipite aujourd'hui, ça se redévoile aujourd'hui, que le juif c'est l'hébreu. Eh bien, elle s'est incarnée historiquement de façon très précise. Voilà pourquoi je crois que, après notre rencontre de Milan, parce que je voudrais dire, je profite que le père Dupuis soit là ce soir avec nous, pour vous dire qu'en réalité, au fond, on ne s'est jamais rencontré pendant 2000 ans. On a fait semblant. Je crois que ce n'est vraiment que de notre temps qu'on commence vraiment à se rencontrer. Et qu'il est très important que cette rencontre se fasse avec, à travers des personnes, si vous voulez, qui tentent de comprendre l'expérience de l'autre, et avec cette épaisseur de durée de 2000 ans, et pas seulement au niveau de telle ou telle couche fuse de la polémique du Moyen-Âge, même un peu avant au niveau de la patristique, mais de pouvoir se parler à la racine même de ces problèmes. Et qu'il faut tenir compte qu'il y a un changement d'atmosphère radicale et qu'il est important de dire très prendre.